Géopolitique.
Sophie Malibaud.
Le débat d'aujourd'hui porte sur la langue française. Francophonie, francophilie, quelle place dans le monde pour le français ? Un moteur de croissance durable, nous dit le dernier rapport commandé par la présidence française à Jacques Attali. Pour en parler, nous recevons dans ce studio d'Ici les Moulineaux deux spécialistes de la question et même davantage que cela, deux acteurs de la francophonie. Hervé Bourges, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et docteur d'État en sciences politiques. Vous avez créé notamment l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé au Cameroun où vous avez passé 6 ans après avoir œuvré en Algérie également. Vous avez ensuite pris la direction de plusieurs médias en France, dont Radio France Internationale. Et vous avez aussi présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci de revenir nous voir aujourd'hui, Hervé Bourges. Et puis à vos côtés, Yves Aubin de la Messuzière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien diplomate, vous avez représenté la France dans un certain nombre de pays, dont le Tchad, l'Irak, la Tunisie. Avant cela, vous avez aussi dirigé les affaires francophones au Quai d'Orsay. Et à l'époque de François Mitterrand, vous étiez Sherpa, c'est-à-dire que vous étiez dans les coulisses des sommets francophones. Enfin, aujourd'hui, vous présidez la Mission laïque française, une association dont le but est la diffusion de la langue et de la culture française par le moyen de la scolarisation à l'étranger. Alors pour commencer cette émission, sans faire de catastrophisme, je vous propose de partir tout de même d'un constat établi dans le rapport sur la francophonie remis cette semaine au président Hollande. Si rien n'est fait, si tout reste en l'état, le développement du français est menacé, serait menacé, et ce serait bien dommage car il y a aussi cet autre constat, la demande est là, le désir de français, voire le besoin de français existe, la difficulté c'est de faire que l'offre rejoigne la demande. Alors veuillez excuser ce vocabulaire purement économique, mais c'est fait exprès car l'apport de cette nouvelle étude réalisée sur la francophonie, c'est qu'elle intègre justement ces notions d'offre et de demande. Il y a un marché pour le français et si l'on était capable de se mettre en position de l'emporter, ce serait un véritable moteur de croissance, pas seulement pour la France, mais pour les pays francophones dans leur ensemble. C'est donc la thèse défendue par Jacques Attali. Et je voudrais vous demander, pour commencer, votre avis sur ce double constat. Yves Aubin de la Messuzière, vous qui êtes à la tête de tout un réseau d'établissements d'enseignement du français, qu'est-ce que vous pensez de ce double constat? Pas assez d'offres pour beaucoup de demandes.
D'abord, un jugement général sur le rapport de Jacques Attali, on y reviendra. J'ai trouvé que c'était un rapport stimulant et parfois décapant. Il a raison, même donc il y a 53 propositions, et je vais revenir parce que sur l'une d'entre elles, puisqu'elle concerne la mission laïque française. Et je pense que son constat est bon. Les propositions ne sont peut-être pas toutes réalistes, il faudra faire un choix. Et alors, pour revenir à la mission laïque française, qui est l'acteur historique de l'enseignement français à l'étranger, notamment au Proche-Orient, parce que sa matrice est la Méditerranée. Elle complète en tant qu'acteur l'action menée par l'opérateur public du ministère des Affaires étrangères, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Mais la marque particulière de la mission laïque, c'est qu'elle s'adresse plus particulièrement aux nationaux. Alors dans ce formidable réseau de l'enseignement français avec ses deux composantes, là nous sommes, on peut le dire, au cœur de l'influence à la fois culturelle au sens large du terme, parce que nous formons depuis 110 ans, ce sont des centaines de milliers de ressortissants étrangers qui se trouvent dans tous les milieux, y compris les milieux économiques. Donc ils peuvent être ceux qui ont été formés dans nos établissements, et là on est dans le temps long, parce qu'ils sont formés, pour la plupart d'entre eux, de la maternelle jusqu'au bac. Et ce que je peux vous dire, dans l'ensemble du réseau d'enseignement français à l'étranger, ce sont 13 000 bacheliers, dont à peu près 5 000 qui concernent la mission laïque française. Donc voilà un réseau, disons, d'influence important et qui peut être un vecteur même de ce qu'on appelle maintenant la diplomatie économique, chère à M. Fabius.
Ce que je voulais vous demander, vous avez l'impression de suffire. Est-ce que votre organisation est en mesure de répondre à la demande qui vous est faite sur place dans différents pays, que ce soit au Liban?
Oui, effectivement. Donc la demande est très forte. Effectivement, on n'arrive pas à y répondre. Et d'ailleurs, et c'est nous qui l'avons souligné à la mission laïque auprès de Jacques Attali, vous prenez un pays comme les Émirats arabes unis, où il y a une forte communauté française dans les milieux économiques qui s'implantent. Il y a des milliers de francophones qui sont aussi dans les circuits économiques. Et parce qu'il y a eu, malheureusement, de la part des responsables politiques, une espèce de malthusianisme concernant le développement de l'enseignement français à l'étranger, alors même qu'on ne demande pas des aides budgétaires. Et le problème, c'est d'avoir le vivier des professeurs détachés de qualité.
Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de malthusianisme ?
Eh ben, de malthusianisme, vous prenez les Émirats arabes unis. Je dis depuis plusieurs années qu'il y avait un déficit compte tenu de la demande, déficit d'offres, qu'il fallait créer de nouveaux établissements, si bien que la réalité au jour d'aujourd'hui, vous prenez les Émirats, il y a pas loin de 200 Français qui ne trouvent pas de place, mais vous avez plus d'un millier de francophones, soit des pays du Maghreb, soit des pays du Mashrek, et d'ailleurs, qui ne trouvent pas de place, et donc qui vont aller dans les établissements locaux ou dans les établissements anglo-saxons. Voilà. Et là, c'est parce qu'il y a une volonté politique, mais il faut que les actes puissent suivre.
Qu'en pensez-vous, Monsieur Bourges ? Est-ce que, vous qui connaissez bien l'Afrique notamment, est-ce que vous partagez ce constat de Jacques Attali que dans un certain nombre de pays, il y a déjà une diminution du nombre d'apprenants de français et que ça risque de vraiment de changer la place du français dans ces pays ?
C'est une constatation à court terme. Nous savons, selon toutes les estimations qui ont pu être faites, qu'il y aura en 2050 près d'un milliard de francophones. C'est-à-dire que ce sera multiplié, comme vous pouvez le voir, par trois. Mais d'où viennent-ils ? Ils sont africains. Et 90% des francophones dans le monde en 2050, c'est la prévision qui est faite, seront africains. Alors ça montre, disons, l'importance qu'il faut attacher à l'Afrique, d'autant plus que pour une partie de cette Afrique, nous leur avons imposé notre langue par le biais du colonialisme. Fort heureusement, ils se la sont appropriés, bon gré, mal gré, depuis la déclaration de Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, le français est une langue magnifique, un butin de guerre dont je me suis emparé et dont je me sers pour mon combat, jusqu'à ceux qui se sont dit, c'est la langue qui va nous permettre de nous faire comprendre entre nous, là où il y a des dizaines, voire des centaines de langues ou de dialectes. Mmh. Alors, mais la contradiction, c'est que d'un côté, vous avez cette évolution qui vaudra faire suivre, disons, par l'éducation, par l'apprentissage de la langue, par le développement. Nous savons que l'Afrique va connaître un grand taux de croissance et que nous avons les yeux rivés souvent sur les gros problèmes que traverse l'Afrique, la terreur, les frontières qui sont dépassées, la faim, les maladies, la dernière en date que vous connaissez bien. Mais à côté de ça, il y a un développement de ces pays, des taux de croissance qui vont de 2 à 10%. Et nous savons que le continent africain et le continent de demain. Et parallèlement, la France ne fait pas l'effort suffisant. Heureusement, Jacques Attali montre qu'au niveau de nos intérêts, de l'intérêt français, nous intéresser à l'économie, au développement économique de l'Afrique, qui passe nécessairement, bien évidemment, dans l'intérêt français par la langue française, il faut qu'on fasse de gros efforts dans ce domaine.
Voilà, moi je voudrais pas passer sur la question des chiffres, parce que tout de même, quand on dit qu'on pourrait avoisiner le milliard de francophones dans le monde grâce à l'Afrique, à certains termes, au terme des années 2060, environ, c'est si le taux de scolarisation progresse considérablement.
Mais je l'ai dit d'ailleurs, c'est d'où l'effort que la France doit faire dans ce domaine. Et Monsieur Aubin-Lamessi a tout à fait raison de dire que l'école joue un rôle important, qu'il ne s'agit pas de faire de gros efforts, sinon quand même de pouvoir envoyer davantage de professeurs, d'aider davantage la ligue que dirige Monsieur Aubin-Lamessi, mais l'Alliance française, mais la coopération culturelle française, au travers de son organisme international, et cet effort est encore insuffisant, faute de moyens. Alors, envoyer des professeurs, c'est très bien, mais il faut les payer. Et même si c'est négligeable par rapport à d'autres efforts, il faut qu'on ait dans ce domaine un vrai plan, et puis que surtout, il y ait une volonté politique. En France, il semble qu'on l'ait actuellement, et que le président Hollande ait pris conscience de cette importance de la francophonie.
La raison pour laquelle il a commandé le rapport, d'ailleurs.
Je dirais que ce rapport avait été commandé sous le précédent gouvernement, par le ministre de l'économie et des finances ou le gouvernement Sarkozy. Et d'ailleurs, dans la lettre que le président Hollande a envoyée à M. Attali, il fait référence à cette...
La poursuite de ce travail.
En disant, je la prends à mon compte et menez-la à bien avant le sommet francophone qui aura lieu au mois de novembre à Dakar et qui nommera un nouveau secrétaire général après que le président Diouf, ancien président sénégalais, qui avait été élu démocratiquement et réélu démocratiquement, comme vous le savez, après 3 mandats, décide de ne pas se représenter.
Bien. Et alors, parmi les propositions qui sont faites, toujours pour parler de l'enseignement du français à l'étranger, il y a celle de la mise sur pied d'une entreprise privée, en fait, qui pourrait donc capter ce marché de façon rentable, parce qu'il y a
si
une demande...
Si vous m'excusez, quand vous dites qu'entreprise privée, ça veut dire que la France n'est pas en mesure, au niveau de ses possibilités financières, d'aider l'Alliance laïque et toutes les autres, et demande qu'il y ait des lycées français privés qui puissent être créés, se développer.
Encore faut-il.
Alors, il y a une demande. Encore faut-il que l'offre soit là.
C'est l'option défendue. Est-ce que ça n'aurait pas justement comme conséquence aussi d'un réseau à 2 vitesses, donc de solutions plus accessibles pour les uns et pour l'élite, effectivement, un réseau privé auquel l'élite pourrait prétendre parce que ça coûterait beaucoup plus cher.
Je voudrais d'abord faire une mise en point parce que Jacques Attali nous qualifie de groupe privé. On est une association à but non lucratif, reconnu d'utilité publique depuis 1907. Mais nous sommes dans le développement depuis de nombreuses années, dans l'autofinancement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les familles qui paient indirectement les professeurs. Nous avons, sauf exception, pas d'aide budgétaire de l'État, nous ne le demandons pas, mais ce que nous demandons, c'est de pouvoir disposer des professeurs et des détachements. Alors on sait que le vivier s'est réduit en France, mais quand il y a des priorités stratégique, je pense, vous avez cité tout à l'heure l'Afrique, je vais vous parler d'un grand projet en Côte d'Ivoire qui va ouvrir le 1er septembre, un établissement qui a été détruit pendant la guerre civile. Le président Ouattara lui-même m'a approché pour nous confier la gestion administrative, financière et pédagogique de cet établissement, pour lequel nous ne demandons aucune aide budgétaire de l'État, mais des professeurs détachés, et nous n'avons pas pu avoir satisfaction. Alors même qu'on est au cœur de la diplomatie d'influence et de la diplomatie économique. Quand on connaît, disons, l'avenir, le président de la République s'est déplacé il y a peu de temps en Côte d'Ivoire avec des chefs d'entreprise. Et comme vous le dites, il y a la Côte d'Ivoire, mais il y a tous les autres pays. Il y a aussi le Nigeria. C'est, comme vous le dites, en partie, disons, là où les croissances seront les plus fortes. Donc, il faut s'implanter, il faut répondre à la demande. Donc, créer un nouveau groupe privé n'a peut-être pas de sens. Je dirais plutôt renforcer la mission laïque française.
Et l'Alliance française qui vit de la même manière.
De l'Alliance française, elle n'est pas dans le domaine proprement scolaire et éducatif, mais elle donne effectivement, sans qu'il y ait beaucoup de moyens de l'État, effectivement, des cours de français pour des adultes, voire pour des enfants. Mais enfin, on pourra revenir tout à l'heure aussi, puisqu'il y a ces 50 millions d'apprenants dans un peu partout dans le monde. Et là, malheureusement aussi, la coopération éducative et linguistique s'est, au fur et à mesure, a beaucoup diminué. Et c'est pour ça qu'il a raison, Jacques Attali, de dire que nous sommes dans un mouvement de régression plutôt que de progression, s'agissant de l'aide que peut apporter la France au niveau de la coopération éducative et linguistique, et pour aider, par exemple, là, il manque une proposition, je crois, dans le rapport de Jacques Attali, c'est de créer un peu partout dans les continents des centres de formation de recrutés locaux.
Donc des gens qui auraient déjà appris le français dans leur propre pays et qui seraient en mesure de dispenser leur savoir-faire.
Oui, voilà, c'est ce que nous faisons, puisque, prenez le Liban, parce que c'est là où nous sommes implantés il y a plus d'un siècle. Nous avons 12 000 élèves, nous avons 7 établissements et nous avons uniquement 8% de professeurs détachés parce que nous avons formé sur place des recrutés locaux de bonne qualité.
Alors, comment sortir du cercle vicieux, en fait, parce qu'on nous explique qu'encourager le développement du français dans le monde, ce sera source de création d'emplois, ce sera bon pour les entreprises qui commercent plus facilement dans la même langue, et en même temps, pour former des enseignants, pour renforcer les capacités en France et même dans le reste du monde, il faut des moyens. Et je dis bien en France aussi, car il y a des difficultés du point de vue de l'enseignement. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, Hervé Bourges. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux qui
n'est pas... On s'en sort par une volonté politique, d'abord, qui n'existe pratiquement pas. On affirme, on fait des réunions, mais je peux vous dire une chose, les francophones dans le monde se sentent souvent abandonnés par la France, en disant « vous nous avez imposé votre langue, on est heureux de la pratiquer, mais encore faut-il qu'on sente que c'est vraiment une volonté politique ». Je crois que cette volonté politique existe actuellement, et je pense qu'elle se manifestera au cours de cette grande réunion internationale. Il y a quand même 77 pays francophones, 57 qui sont adhérents, et 20 qui sont observateurs. Ils seront tous présents, avec notamment beaucoup de chefs d'État, à Dakar, à la fin du mois de novembre. Mais le président français sera bien évidemment présent. Et ce qu'attendent les francophones, c'est une volonté affirmée de la France de défendre sa langue et d'aider ceux qui ont cette langue de communication à pouvoir la diffuser et dispenser à leurs élèves, cette langue, au lieu de dire, ben non, c'est une langue qui est aujourd'hui dépassée par l'anglais. Ce qui est faux. L'anglais est une langue internationale très importante, et il est important qu'elle puisse continuer à exister, mais nous savons très bien que le mandarin est en place de trouver son rôle important aujourd'hui dans le monde. Vous savez, les Chinois sont en train d'installer dans tous les pays du monde, y compris dans les pays francophones, des instituts Confucius. Qui rencontrent aujourd'hui un grand succès. Vous avez aussi le fait que vous avez des États francophones qui aujourd'hui adhèrent aussi au Commonwealth. Il y en a plusieurs qui sont à la fois au Commonwealth et vous en avez d'autres qui disent, qui menacent, ça a été le cas du Gabon il y a récemment, de quitter la francophonie pour aller là en disant ben, on a davantage intérêt à être aidé par la langue anglaise, pour les affaires, etc. Et alors, c'est pour ça que le rapport d'Attali est très intéressant, parce qu'il montre bien qu'avec la croissance qui se développe en Afrique et une volonté française qui s'affirmerait, il y a un marché francophone dans le monde et qu'il est important que la France puisse s'y intéresser de près.
Mais parce pour l'instant, les grands émergents ne sont pas francophones. On a les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
Ils ne sont pas francophones.
Ils ne sont pas francophones. Et donc la diplomatie économique est en train de diriger les moyens peut-être vers ces pays. Certains, par exemple, critiquent nos effectifs dans des ambassades comme à Madagascar ou au Sénégal, en comparaison aux effectifs dans les représentations au Brésil et en Inde. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette corrélation?
Alors avant, je voudrais revenir. Vous parlez des centres Confucius qui se développent. Mais il y a un autre pays, un pays émergent, qui est la Turquie.
Oui, absolument.
Avec cette diplomatie qu'on appelle néo-ottomane, et qui fait qu'ils se déploient dans l'ancien empire ottoman, dans les pays du Maghreb et du Mashrek. Et on s'est aperçu que finalement, c'est le cas au Kurdistan, ça peut être le cas aussi dans les pays du Maghreb, en concurrence aussi avec des centres culturels et des écoles turques. Et donc, ils sont aussi très attractifs. Alors, pour revenir, le problème, vous disiez, c'est un problème de volonté politique. Vous avez parfaitement raison. Mais on ne voit que les actes ne suivent pas. Mais c'est aussi un problème de courage politique. Concernant, pour revenir au grand réseau d'enseignement français à l'étranger, je crois qu'on n'a pas donné de chiffres, mais je vais vous en donner un. C'est 480 établissements, quand on parle des deux acteurs que sont l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la Mission laïque, 350 000 élèves, dont une majorité d'étrangers. Mais alors, le problème, puisque nous demandons, il est important pour avoir des établissements de qualité, parce qu'il faut reconnaître que là, nous formons des élites, ce qui n'empêche pas que pour d'autres établissements proprement locaux, on puisse apporter des aides. Eh bien, c'est un problème de courage politique, parce qu'il faut faire des redéploiements. Il y a des surplus de professeurs détachés en Europe. Vous voyez, en Allemagne, 60 à 80%, en Autriche, 60 à 80%. On nous demande, vous, monsieur, vous êtes très attaché à l'Algérie. L'Algérie, c'est le trou noir de l'enseignement français à l'étranger, alors même que c'est l'un des pays les plus francophones au monde. Il y a une demande...
Deuxième pays francophone au monde, même si l'Algérie n'adhère pas à l'Organisation nationale de la francophonie. Mais est-ce que vous savez, madame, qu'il y a 25 quotidiens en français?
Oui.
25 quotidiens en français.
La francophonie, donc, c'est la réalité. Il y a une demande. Et on nous demande, nous, le pouvoir politique, d'aller en Algérie comme d'aller en Palestine. C'est tout à fait dans notre géographie. Mais on n'est pas sûr de pouvoir y aller, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir bénéficier de professeurs détachés, dont la plupart seront payés par les établissements eux-mêmes. Parce que ce qu'il y a, le courage politique, on va dire, mais il faut, disons, dégraisser en quelque sorte, si je puis dire, certains établissements.
Ressource,
voilà.
En fait.
Mais alors, le courage, c'est parce qu'on va.
Nous allons devoir faire une courte pause. Oui. Je suis obligée de vous interrompre car il y a un journal d'information. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, avec nos invités, Yves Aubin de la Messusière et Hervé Bourges. Après cette petite pause, nous revenons donc sur l'influence du français dans le monde et nous pencherons également sur le rôle de l'Organisation internationale de la francophonie.